Bonjour la Terre au Carré, je m'appelle Clotilde, j'habite à Saint-Maximin dans le Var et je voulais vous informer qu'une nouvelle ressourcerie va ouvrir à Brignoles début janvier 2022. Donc pour ceux qui ne savent pas, une ressourcerie, ça a pour but de récupérer des objets, de les restaurer et ensuite de les revendre, et tout ça par des personnes en insertion. Donc c'est vraiment super parce que ça permet de réduire le nombre de déchets et de donner une seconde vie à des objets, mais également une seconde chance à des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Ça va s'appeler la Courtoise Ressourcerie, ça va être à Brignoles dans le Var et ça ouvre en janvier 2022. Je vous remercie, bonne journée.
Salut à tous les citoyens, citoyennes, auditeurs. C'est Julien du Marais Poitevin pour donner des nouvelles quant au chantier de construction des méga-bassines qui viennent piller l'eau des nappes phréatiques et le Marais Poitevin pour installer l'agro-industrie sur le secteur. Les travaux continuent. La plastification du cratère de Mosée sur le Mignon est en cours. Près de 50 000 m2 de plastique sont en train d'être posés. Et ce qu'on a appris ce matin, c'est que des travaux de canalisation étaient en cours, travaux illégaux, puisqu'en pleine période sensible pour les zones humides, et que donc depuis ce matin, deux pelleteuses sont en train de saccager la vallée du Mignon. Donc, alerte nouvelle, ce projet abject est en train de marquer profondément, de poser des saillies dans notre territoire. Il faut qu'on réagisse fort. Également de cocher dès maintenant les dates du 25-26 mars, printemps maraîchin, soulèvement de la terre pour une autre agriculture, tous dans le Marais Poitevin, les 25-26 mars, pour que l'écologie soit au cœur du débat présidentiel et pour que les projets de méga-bassines stoppent immédiatement.
Bonjour, je suis Marc de Versailles. Je suis économiste de l'environnement à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et nous menons avec des collègues un projet sur la perception du risque de morsure de tiques et de la sévérité de la maladie de Lyme auprès des usagers des forêts. J'ai noté la réaction de Mathieu Vidard lors de l'émission de vendredi face aux propositions de balade en forêt de François Lasserre qui encourageait à faire attention aux morsures de tiques. Et je serais très reconnaissant à tous les auditeurs qui se sentent concernés soit par les promenades en forêt et toute activité en forêt que ce soit, soit par les questions de maladies transmises par les tiques et notamment maladie de Lyme. S'ils pouvaient remplir un questionnaire en ligne que nous avons mis à disposition. C'est une enquête totalement anonyme et les données sont protégées. Et cette enquête nous aidera, nous l'espérons, à contribuer à des meilleurs instruments de sensibilisation et de prévention contre ces risques-là. Donc cette enquête se trouve en ligne sur le site du laboratoire CEMOTEV, C-E-M-O-T-E-V, CEMOTEV, et prend environ 15 minutes si, pour toutes les personnes majeures et résidant en France métropolitaine. Merci beaucoup si vous pouvez diffuser ce message et merci beaucoup pour vos émissions. Bonne journée, à vous.
Bonjour, c'est Robin de Pau. Je suis trop content que le Marais reprenne. Ça fait des semaines et des semaines que j'attends ça. À bientôt.
Le répondeur de la Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
Il y a 60 000 ans, commençait pour l'espèce humaine une aventure de très grande ampleur, celle de la première migration planétaire. C'est en effet en quittant l'Afrique que nos ancêtres se sont aventurés dans le reste du monde, le début d'une épopée qui allait permettre à l'humanité de croiser sur sa route de nouvelles populations, de se métisser au fil de ses déplacements et donc de peupler le reste de la planète. Nous sommes tous, en Europe et en Asie, les descendants de ces premiers migrants et nos gènes portent les traces de ces multiples croisements. C'est l'occasion cet après-midi d'explorer avec nos invités ce patchwork historique et géographique qui a révélé de très nombreuses surprises aux spécialistes de la génétique des populations. Luis Quintana Murci et Raphaël Schex sont avec nous pour en parler. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Luis Quintana Murci, vous êtes généticien à l'Institut Pasteur, professeur au Collège de France où vous occupez la chaire de génomique humaine et évolution et donc vous publiez chez Odile Jacob Le peuple des humains sur les traces génétiques des migrations, métissage et adaptation. Raphaël Schex, vous êtes vous chercheuse au CNRS spécialisée en anthropologie génétique, avec des recherches qui visent, vous allez nous l'expliquer, à comprendre l'influence des facteurs culturels sur la diversité génétique et épigénétique humaine. On va donc se retrouver dans un instant pour comprendre nos origines, plonger au cœur de la diversité des populations humaines et voir comment notre espèce s'est adaptée à ces différents environnements. Vous allez répondre aux messages et aux questions des auditrices et auditeurs qui arrivent sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter avec vos notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Est-ce
que vous connaissez les fleurs muettes?
Non.
Eh ben, je vais vous en parler dans un instant avec en plus un prestigieux concours remporté par la France.
Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Ayestara et préparée aujourd'hui par Anna Massardier avec Charles Westrelin à la technique.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
La plus ancienne espèce Homo a probablement vécu il y a plus de 2 millions d'années. Mais contrairement aux premiers hominidés, qui présentaient à la fois des traits humains et des traits de singe, les espèces du genre Homo étaient plus distinctement humaines. Leur capacité crânienne n'a cessé d'augmenter. Ils ont développé des utilisations sophistiquées d'outils et sont devenus la première espèce à maîtriser le feu. Leurs adaptations physiques et comportementales, conjointes à des développements technologiques, ont permis à certaines espèces Homo d'être les premières à migrer d'Afrique vers le reste du monde.
Et c'est donc cette histoire que nous allons vous raconter cet après-midi, extrait d'une vidéo à l'instant de National Geographic en mars dernier. Les origines des humains, le peuple des humains, chez Odile Jacob, Luis Quintana Mercy. C'est donc ce livre que vous publiez. C'est quoi l'idée finalement pour vous? C'est de montrer qu'on a tout à bénéficier finalement d'un métissage, de rencontres entre différents peuples?
Tout à fait. S'il y avait un message fédérateur de ce livre, c'est comment la diversité et l'échange de la diversité génétique entre nous, c'est le substrat de l'évolution et donc du progrès de notre espèce.
Ouais. Et c'est ce qu'on a fait depuis donc très longtemps, c'est ça, au fil de nos déplacements, c'est d'échanger nos gènes au fond, hein, c'est ça hein.
Tout le temps depuis notre sortie d'Afrique, on s'est métissé, que ce soit entre populations humaines tout simplement, voire même avec des formes humaines aujourd'hui disparues, comme l'homme de Néandertal.
Oui, avec beaucoup de surprises aussi, puisqu'on a même découvert des espèces comme Denisova, dont on ignorait tout, et c'est grâce à la génétique, justement, votre discipline, que ça a été possible. Pourquoi le choix de cette peinture de Gauguin en couverture de votre livre, avec un titre évidemment qui résonne dans cette histoire des populations?
Parce que il représente la diversité. Déjà, c'est une œuvre picturale que se lit à l'inverse de la forme européenne, que c'est de droite à gauche. Il faut commencer par la gauche, mm-hmm. où il y a le « d'où nous venons », que c'est représenté avec un groupe de femmes et avec un nouveau-né. Au milieu, le « que nous sommes », c'est le rapport de la jeunesse avec la nature. Et à gauche, il y a le « où nous allons mm-hmm. », où on peut voir la vieillesse et l'au-delà. Et je pense que quelqu'un qui va lire ce livre, à la fin, d'une façon très simple, avec quelques mots, il va trouver sa réponse sur le « d'où nous venons ?» d'Afrique, « que nous sommes ?» des métis, oui. Et « où nous allons ?» vers une société et une science et une médecine plus inclusive de la diversité.
Ça parce qu'évidemment, l'aspect médecine, médical, sanitaire, c'est aussi très important parce que vous intéressez beaucoup aux infections. Et à la lumière de ce qu'on peut apprendre du passé, on pourrait imaginer une médecine moderne? C'est ça aussi que ça veut
dire?
Tout
à fait. N'oublions pas que nous tous ici, nous ne sommes pas autre chose que les descendants de tous ceux qui ont survécu les grandes épidémies du passé. La tuberculose, la grippe espagnole, le paludisme. Donc cette résistance, cette résilience en génétique de population, on sait la disséquer dans nos gènes d'aujourd'hui. Et donc, ce qu'on fait en génétique de population n'est pas autre chose que disséquer l'expérience la plus naturelle qu'elle existe, mmh. celle de la nature. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est apprenons déjà ce que la nature a fait à notre place, pour essayer d'appliquer ça à la médecine d'aujourd'hui, une médecine plus de précision et plus adaptée aux individus.
Avec le métissage, évidemment, qui va aussi se multiplier, on en parlera au cours de cette Terre au carré. Il y a quasiment un message politique, même si ce n'est pas votre rôle, vous, de scientifique, mais en filigrane, finalement, on peut presque lire ça aussi dans votre travail, parce que vous nous dites, ben, le métissage, c'est quand même quelque chose de plus, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup de force, beaucoup de défense par rapport à notre environnement. C'est ça l'idée aussi?
Bien sûr, c'est-à-dire, on peut en parler après avec les détails, mais on a montré, c'est-à-dire mon laboratoire même à l'Institut Pasteur a montré, et j'y dédie tout un chapitre dans le livre, comment le métissage avec l'homme de Néandertal a permis à nos ancêtres, les premiers Européens, de mieux se défendre des virus, par oui. exemple. Après, sur la question, est-ce qu'il y a un message politique, est-ce qu'il y a une idéologie derrière ce livre, la réponse est clairement non. Moi, je suis un scientifique. Moi, je raconte que les choses qu'on observe. Mm-hmm. Après, c'est aux gens de l'interpréter à sa sauce. C'est vrai que dans les discussions d'aujourd'hui et surtout après les news que votre collègue a donné que sont déprimantes, je trouve. J'ai envie que les gens lisent un peu plus ce bouquin.
Et se disent un peu plus que nous sommes tous métis, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Exactement.
Et qu'on a tout intérêt à se mélanger. Donc mélangeons-nous, au fond.
Surtout, même les Européens, entre 300 000 guillemets de souche, on est déjà des métis d'au moins 4 composants génétiques.
Oui, donc c'est vrai que l'expression de souche, il faut la mettre vraiment avec beaucoup de guillemets, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, au fond, à la lumière de cette histoire que vous nous racontez. Raphaël Schex, l'influence des facteurs culturels. Alors, dans toute cette histoire, ça c'est votre spécialité. Expliquez-nous un petit peu en quoi la culture pourrait influencer nos gènes, alors.
Ben en fait, on a tendance à penser qu'avec la culture, c'est la fin de l'évolution biologique, et en fait, c'est tout l'inverse. La culture va en fait faire varier des paramètres qui sont hyper importants pour l'évolution humaine, notamment les paramètres démographiques, comme les migrations d'hommes et de femmes qui vont se faire différemment en fonction des cultures, mais aussi les facteurs sélectifs, puisque en changeant nos cultures, on va par exemple changer notre alimentation, et on va s'adapter génétiquement à cette nouvelle alimentation ou à ces nouveaux pathogènes si on se met à vivre au contact d'animaux que l'on domestique. Donc en fait, la culture exerce des nouvelles pressions sur l'évolution du génome humain.
Ouais, et derrière ce mot culture, alors vous mettez quoi exactement ?
Alors on peut le définir de plein de façons différentes.
Il y a plein de choses,
hein. Moi, une définition que j'aime bien, ça a été proposé par deux évolutionnistes américains. La culture vue comme de l'information, donc au sens de connaissances, de valeurs, de savoir-faire, qui sont transmises par apprentissage social, et c'est important de retenir que c'est par apprentissage social et pas transmis de manière génétique, et qui va modifier le comportement des individus. Mmh. Et c'est précisément parce que ça modifie le comportement des individus que ça va faire varier l'évolution des gènes.
Mmh. Donc l'alimentation par exemple, c'est l'exemple que vous citiez, mais pas seulement. Le langage aussi, ça peut en faire partie ou pas ?
Alors certainement qu'effectivement, si on a tendance à se marier avec quelqu'un qui parle une langue similaire à soi-même, donc ça va induire effectivement faire des barrières génétiques entre populations qui parlent des langues différentes, mais aussi ce sur quoi je travaille beaucoup, c'est l'organisation sociale. Et comment l'organisation sociale laisse une signature dans la diversité génétique, et donc comment les gènes deviennent des sources d'informations hyper importantes et hyper intéressantes sur les organisations sociales à la fois actuelles mais aussi passées.
C'est-à-dire organisation sociale, est-ce que vous pouvez définir un peu plus ce
Alors,
que ça
c'est
veut
ce
dire
que les anthropologues appellent aussi les systèmes de parenté, et par exemple c'est les règles d'alliance, avec qui je me marie, les règles de résidence, où est-ce que j'habite avec mon conjoint, et les règles de filiation, à quel groupe de parenté mon enfant va appartenir, puisqu'on a l'impression que, vu de notre point de vue d'Européen, un enfant appartient évidemment à la famille du père et de la mère. Et en fait, on s'aperçoit que c'est hautement culturel et qu'il y a des variations dans l'espèce humaine, avec au contraire beaucoup de populations patrilinéaires où l'enfant est rattaché uniquement au groupe de parenté du père, donc au clan du père, et des populations matrilinaires où l'enfant est rattaché au groupe de parenté de la mère.
Lesquelles, par exemple ?
En fait, la majorité des populations humaines sont unilinéaires, c'est-à-dire patrilinéaires ou matrilinéaires. Par exemple, les Chinois sont patrilinéaires, les Nuers en Afrique sont patrilinéaires. En population matrilinaire, c'est un petit peu plus rare, mais par exemple, on a étudié en Asie du Sud-Est, puisqu'il y a des populations comme par exemple les Jarai, qui sont des populations matrilinaires, matrilocales, c'est-à-dire en plus le mari vient vivre chez sa femme, avec une matronymie, donc l'enfant porte le nom de sa mère.
Evelyne Eyard, nous en avez parlé de temps en temps dans les chroniques de la Terre au Carré l'année dernière, et c'est exactement le travail que vous menez, donc particulièrement dans cette zone géographique, l'Asie du Sud-Est, c'est
ça ? Tout à fait. Donc moi, j'ai travaillé effectivement à la fois sur les populations de Tsiganes, chez les populations d'Asie centrale, mais aussi beaucoup depuis 10 ans en Asie du Sud-Est, puisqu'en fait, l'Asie du Sud-Est, c'est des populations il y a des populations qui parlent des langues très apparentées, qui ont le même mode de vie, ce sont des riziculteurs, mais qui ont des organisations sociales totalement différentes. Donc à quelques kilomètres, on a une population patrilinaire, un peu plus loin, on a une population matrilinaire, et encore plus loin, une population indifférenciée comme nous, donc une grande variation d'organisation sociale, et on a pris l'Asie du Sud-Est comme un petit laboratoire pour justement étudier l'influence de ces organisations sociales sur la diversité génétique humaine.
Luis Quintana, merci, justement en retraçant cette histoire du peuple des humains, c'est quoi finalement pour vous ? C'est fouiller dans notre passé génétique pour essayer d'en sortir tout un tas d'informations que jusqu'à maintenant on ne connaissait pas, ou jusqu'à des années très récentes en tous les cas.
Oui, exactement, c'est ce que j'essaye de faire dans ce que j'essayais de faire dans ce livre, c'est de résumer les points les plus saillants des 20 dernières années en génomique humaine.
Il s'est passé beaucoup de choses.
Et s'est passé beaucoup de choses parce que ce que j'essaye de faire ici, c'est dire comment l'étude de la diversité génétique entre nous, individus ou populations, aujourd'hui, on peut l'utiliser comme pour faire un peu de l'Indiana Jones et aller faire le passé et mieux comprendre nos origines, nos migrations et surtout, dans le cadre de mes intérêts plus personnels comme scientifique, comment notre espèce s'est adaptée à l'environnement, aux différents climats, aux différentes ressources nutritionnelles et aux différents pathogènes.
Eh bien, on y revient dans un instant. C'est le thème de cet Air au carré avec des questions pour vous de la part de nos auditeurs.
L'ADN est quand même une molécule extrêmement stable, puisqu'elle peut, malgré le fait qu'elle subit les dégradations du temps et de l'environnement, elle peut rester présente dans des échantillons anciens très très longtemps. Alors, c'est à la fois parce qu'elle est très stable et à la fois parce qu'on a des technologies extrêmement puissantes qui font qu'on arrive à la récupérer. Donc, en quelque sorte, notre travail de paléogénéticien est un travail d'archéologie. Nous sommes des archéologues de l'ADN.
Voilà, c'était Catherine Annie, chercheuse à l'Institut de génomique fonctionnelle de Lyon sur le Blob, ce média, en novembre 2018, pour parler de l'ADN et de génétique avec vous, Luis Quintana. Merci et Raphaël Chex pour évoquer eh bien, les origines et le long parcours métissé des humains sur la Terre. L'ADN humain, justement, est-ce qu'il y a des limites à pouvoir justement l'observer, l'étudier, ou est-ce qu'on peut aller assez loin finalement dans nos origines ?
Par rapport à nos origines, on peut aller assez loin. On peut aller même à nos différences par rapport aux chimpanzés.
C'est-à-dire, ça nous renvoie où?
Ça nous renvoie à une divergence d'il y a environ 6-7 millions d'années.
On a encore de l'ADN de ces périodes-là?
Ah non. C'est-à-dire, avec l'ADN actuel des humains modernes,
oui, c'est ça.
On peut le comparer avec l'ADN des chimpanzés et voir à partir de quel moment ils se sont séparés. Si votre question c'est jusqu'à quand on peut extraire de l'ADN ancien des fossiles...
Sur la conservation, oui.
Ça dépend beaucoup des espèces. Le plus vieux que j'ai en tête, je pense qu'on arrive maintenant presque à 1 million d'années avec les travaux de Ludovic Orlando,
oui.
Notamment que ce soit avec les chevaux ou aussi avec les mammouths.
Oui, il est venu nous en parler effectivement. Hein. Ouais. Mais ça, c'est quasiment des limites pour l'instant un petit peu infranchissables, mais qui sait ?
Ouais.
Dans des conditions de conservation tout à fait particulières, on pourrait imaginer, Raphaël Chex, aller encore plus loin dans le temps.
On l'espère. Et ouais. Je crois que sur Homo, il y a un os de 400 000 ans aussi qui a été séquencé en Espagne. Donc oui, on espère qu'on va pouvoir aller de plus en plus loin.
Ouais. Vous le disiez tout à l'heure, Luis Quintana, merci. La génomique, hein, et vraiment le séquençage du génome humain, c'est très récent. Ça fait 20 ans. On a fêté les 20 ans cette année. Et ça a complètement révolutionné la discipline. Qu'est-ce que ça a ouvert, au fond, comme porte, hein?
Ça a ouvert des choses qu'on ne s'attendait pas. C'est-à-dire, il y a 20 ans, quand le génome humain a été séquencé, ça coûtait 3 milliards de dollars.
Ouais.
Aujourd'hui, avec quelques centaines d'euros, on séquence un génome humain. Donc, ça a permis de disséquer et avoir un accès à l'histoire des populations humaines qu'on n'avait absolument pas l'accès avant. Ça a permis, par exemple, de savoir une chose qu'aujourd'hui, ça nous paraît comme un acquis, mais il y a 12 ans, on ne savait pas, que c'est que nous tous, d'origine non-africaine, entre 2 et 2,5% de nos génomes, est d'origine néandertalienne. Ça a permis de savoir qu'il y a une autre espèce humaine qui habitait en Asie probablement jusqu'à il y a que 20-25 000 ans, que c'est les Denisoviens qui habitaient en Asie de l'Est et surtout en Asie du Sud-Est. Ça a permis de voir aussi que le sans métissage entre populations d'aujourd'hui, comme le métissage qu'il peut avoir entre les peuples bantous fermiers d'Afrique et les chasseurs-cueilleurs de la forêt, ils se sont échangés entre eux des mutations que leur ont permis aux deux de mieux résister le paludisme. Et ça a complètement changé aussi le vers où on va, le où allons-nous, que c'est d'utiliser toute cette information sur la diversité génétique, mais pas que, parce qu'on n'est pas qu'une boîte à gènes, notre diversité culturelle,
oui.
Notre mode de vie, pour semer les bases d'une médecine de précision et d'une médecine personnalisée.
On y reviendra aussi. La découverte donc du métissage de néandertaliens, on la doit à Sven Tepebe, à ses équipes de l'Institut Max Planck à Leipzig. Et justement, on va l'écouter. Il nous explique pourquoi le génome de Néandertal est particulièrement intéressant à étudier.
Si l'homme de Néandertal m'intéresse autant, c'est parce qu'il est le plus proche parent des humains d'aujourd'hui. Bien sûr, il a disparu. Mais si nous voulons en apprendre plus sur nous-mêmes, il faut nous tourner vers lui. C'est de cette façon que nous comprendrons ce qu'il y a de singulier dans l'homme d'aujourd'hui. Dans le génome des humains en dehors du continent africain, on trouve de nombreuses caractéristiques très intéressantes pour la survie héritées de l'homme de Néandertal. Ainsi, l'aptitude à vivre à très haute altitude, comme au Tibet, est un apport néandertalien.
Mais cet héritage ne comporte pas que des avantages.
Certains gènes néandertaliens sont par exemple associés à la probabilité de déclarer un diabète à un âge avancé. Ce type de découverte est de plus en plus fréquent. D'autres gènes sont très clairement impliqués dans certaines défaillances du système immunitaire, par exemple.
Voilà, Sven Tepebe dans l'émission Xenius d'Arte en 2018. Donc, il n'y a pas que du bon non plus hein, dans cet héritage génétique, Luis Quintana, merci.
C'est-à-dire que ce qui a été avantageux il y a 40, 50 000 ans, quand on s'est métissé avec Néandertal, n'oublions pas que les premiers Africains qui viennent en Europe, donc après la sortie d'Afrique, il y a 60 000 ans, ils doivent faire face à un nouveau environnement. Un nouveau climat, le froid, des nouveaux pathogènes. Donc là, vous avez deux options. Ou vous attendez qu'une mutation un jour arrive et vous permet de vous adapter mieux au froid ou de résister mieux au virus, que ça peut prendre des milliers d'années.
Oui.
Ou vous vous métissez avec une espèce ou un groupe qui habite déjà sur place depuis 300 000 ans et que par définition, il est adapté. Donc là, ça a permis de... Ce qui était à ce moment-là, excusez-moi, je m'étais parti sur autre chose,
non, mais je vous coupe
avantageux,
ouais.
se sont passées beaucoup de choses depuis. Changement de mode de vie, des arrivées de nouvelles maladies. Et on sait aujourd'hui, par exemple, qu'il y a un morceau de chromosome 3 que nous avons 16% les Européens, par exemple, et qu'il est présent en 50% des Indiens, voire 62% au Bangladesh. Et ce morceau du chromosome 3, aujourd'hui, c'est un peu un cadeau empoisonné, parce qu'il augmente de 60% les chances de développer un Covid-19 sévère.
Ah oui, parce qu'il vient d'où ? De Néandertal, justement, ou pas ?
Exactement.
Oui, parce qu'on en avait parlé, hein, c'est ça. Donc, on a un héritage un peu délétère aussi.
Aujourd'hui, avec l'arrivée du Covid-19.
Ouais. Raphaël Chex, alors vos études en Asie du Sud-Est, racontez-nous un petit peu, donnez-nous un exemple de cet héritage culturel et la façon dont il peut influencer précisément notre boîte à gènes, si on peut dire les choses un peu froidement comme ça.
Ben, par exemple, on a étudié des populations, donc je vous disais, qui étaient matrilinéaires et patrilinéaires, et donc en termes de résidence, c'était matrilocal et patrilocal, c'est-à-dire que c'est dans un cas le mari qui vient vivre chez sa femme et dans l'autre c'est la femme qui va vivre chez son mari. Et en fait, en étudiant deux marqueurs génétiques qu'on aime beaucoup parce qu'ils permettent de tracer l'histoire spécifiquement maternelle et paternelle de notre histoire, de notre espèce, c'est l'ADN mitochondrial pour l'histoire maternelle et le chromosome Y pour l'histoire paternelle. On s'est aperçu que ces populations avaient des signatures génétiques très différentes, puisque dans un cas, les hommes se déplacent, ce qui fait, entre guillemets, bouger leur chromosome Y. Donc on a des populations qui vont être plus homogènes, enfin similaires les unes aux autres en termes de chromosome Y. Et à l'inverse, des populations patrilocales, où ce sont les femmes qui vont vivre chez leur mari. Et là, ce sont donc les ADN mitochondriaux qui entre guillemets, se déplacent à chaque génération au moment des mariages. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la signature, on la retrouve pas simplement dans ces populations d'Asie du Sud-Est, mais on la retrouve à l'échelle mondiale, puisque en fait, à l'échelle mondiale, il y a une prépondérance des systèmes patrilocaux, et en fait, on s'aperçoit que de ce fait-là, les ADN mitochondriaux ont migré de génération en génération, et si bien qu'aujourd'hui, si vous comparez par exemple une population de Français et de Chinois, ils vont être plus similaires en termes d'ADN mitochondrial qu'en termes de chromosome Y, et ça, c'est parce que si on prend en compte ces migrations des femmes à chaque génération, globalement, les femmes sont les grandes migrantes de l'histoire et ce ne sont pas les hommes qui sont les grands migrants de l'histoire.
Ça, on arrive à le dire, justement, grâce à la génétique ?
Tout à fait, ouais. On a tendance à penser qu'effectivement, c'est les hommes qui sont... Alors, parfois, c'est vrai, hein, on parlait de métissage. L'Europe est un grand melting pot avec trois composantes. Une composante de chasseurs-cueilleurs, une composante de fermiers venus du Proche-Orient, une composante qui est venue des steppes pontocaspiennes à l'âge du bronze. On sait que cette dernière composante, ce sont des hommes, 14 hommes pour une femme. On ne sait pas très bien pourquoi c'était comme ça, c'était spécifique des hommes. Mais en fait, si on regarde de manière globale à l'échelle de l'espèce humaine, en regardant ces deux marqueurs que sont le chromosome Y et l'ADN mitochondrial, on s'aperçoit que ce sont plutôt les femmes qui sont les grandes migrantes de l'histoire.
Allez, on y revient dans un instant avec vous autour du peuple des humains. Ça paraît chez Audi Jacob et pas mal de questions sur franceinter.fr. On vous les transmet dans un instant.
France Inter. La Terre au carré.
14h32, Camille passe au vert.
Avec un double cocorico, des Français et Toulousains, en plus, un bisou la famille, viennent de remporter un concours ultra prestigieux. Leur joie au moment de l'annonce est d'ailleurs assez proportionnelle au standing. Voilà, ils exultent d'avoir remporté le Grand Prix de LightGEM. C'est un concours international de biologie synthétique organisé par le célèbre et très classe MIT à Boston, aux États-Unis.
Je vous avoue qu'on est un peu sur les fesses, quoi.
C'est vrai que c'est incroyable.
Alors Manon Teiss et Camille Pain, 23 ans, font partie de l'équipe de 6 étudiants en microbiologie moléculaire ou génie biologique à l'INSA et l'Université Paul Sabatier, récompensés pour avoir réussi à produire l'odeur de la violette grâce à des micro-organismes.
On s'est intéressé à la violette de Toulouse, de par le fait qu'on avait ce côté local de la violette, et on s'est précisément intéressé à son parfum. Puisque la violette, c'est une fleur de type muette, ça veut dire qu'elle va avoir une odeur quand vous allez la trouver dans la nature ou quand vous allez acheter des violettes. Mais en fait, on n'arrive pas à extraire ce parfum naturellement parce qu'il n'y a pas assez en fait, de molécules odorantes dans la fleur.
Résultat,
l'alternative, c'est de faire de la synthèse chimique. Et forcément, la synthèse chimique, c'est pas toujours très éco-friendly, on va dire. Voilà, c'est pétro-sourcé. Donc nous, on a voulu réfléchir à une alternative qui permet de produire l'odeur de la violette, mais de manière plus éco-responsable, en fait.
Les étudiants ont donc créé un système, on dit un consortium microbien, en vrai, entre une petite bactérie et une petite levure.
Un des deux organismes, c'est une levure. C'est un organisme qui est assez courant en biotechnologie et même dans la vie de tous les jours, parce que c'est un organisme qui est utilisé, par exemple, pour faire de la bière, du pain. Et l'autre organisme, en fait, qui est une bactérie un petit peu particulière, qui est capable de faire de la photosynthèse.
Donc, en fait, notre idée, c'était que la bactérie va récupérer le CO2 de l'environnement, enfin, le dioxyde de carbone. Elle va produire du sucre, qui va pouvoir nourrir, en fait, la levure, qui, elle, va pouvoir faire du CO2. Et en fait, ça fait un cycle. Et en plus, on a fait en sorte que ces micro-organismes puissent produire les différentes molécules qui composent l'odeur de la violette.
Et là, c'est Maxence Holtz, 21 ans, lui, qui explique.
On avait 6 molécules différentes qu'on voulait essayer de produire. On devait construire des molécules d'ADN. Une fois qu'on a réussi à les construire, il fallait réussir à les insérer dans les micro-organismes. Donc c'était aussi un défi. Et donc voilà, il fallait qu'on montre que ça marchait, quoi. C'était assez sportif, mais on avait des boîtes de pétri sur lesquelles on avait l'impression que nos levures sentaient la violette et elles avaient changé de couleur aussi. Et donc bon, on avait des indices, mais il fallait démontrer que ça fonctionnait, quoi, de manière rigoureuse. Donc c'était assez intense.
Et ouais, pas de vacances depuis plus d'un an, d'autant que ces recherches se sont faites en parallèle de leurs études et sur un temps très court, souligne Manon Theis.
C'était très très intense. On a eu la chance d'avoir des résultats parce qu'il faut savoir qu'en fait, on fait un travail de recherche qui normalement, pour vraiment aboutir à notre idée, il faudrait plusieurs années.
Donc autant vous dire qu'il y a eu aussi un petit peu d'étonnement après 4 mois seulement d'expérimentation, mais le travail paye.
Au final, on a réussi à avoir une levure qui sentait la violette à la fin de l'été. Ça, c'était ouf.
C'était ouf, dit Camille Pain, bien consciente que ce n'est que le début d'autre chose. Hein. Une jolie ligne d'abord, évidemment, sur le CV, hein, quelques mois de la fin de leurs études à tous, et une porte ouverte pour les industriels et les parfumeurs qui voudraient développer le projet à plus grande échelle. Il a un nom d'ailleurs.
On s'appelle Elixio. C'est en deux mots, donc il y a de élixir et qui en grec veut aussi dire extraire, et io en fait qui vient, donc les molécules principales de la violette s'appellent les ionones, du coup on a gardé le début io et on a fusionné du coup élix et io.
Elixio, vainqueur parmi plus de 350 autres projets de solutions scientifiques pour répondre à des besoins sanitaires ou environnementaux, pensés donc par des étudiants du monde entier et de très grandes universités. C'est la première fois que la France remporte le concours, lancé en 2003.
Voilà, organisé donc par le MIT de Boston. Raphaël Schex, pas mal quand même, non?
Super, hyper impressionnant.
Ah, n'est-ce pas, hein? Louis Quintana, merci.
Ah ouais, super impressionnant.
Mais on n'en entend pas assez parler en France. Non. Quand on gagne les Français, finalement, vous avez... une espèce de discrétion étonnante quand même. Hein. Mmh. Alors que les Américains, eux, ils le font ça.
Voilà, ils ont bien célébré, mais effectivement, c'était entre eux. Juste une toute petite question, parce qu'on parlait de produits phytosynthétiques, Louis Quintana-Murci. Est-ce qu'ils peuvent avoir une influence, ceux qui sont utilisés actuellement, notamment dans l'agriculture, sur les gènes des humains?
Non.
Ça ne peut pas modifier, il ne peut pas y avoir de par rapport à ce que vous disiez sur notamment le...
Mais sur l'épigénétique en particulier, voilà, quand même, sur les facteurs gènes, environnementaux.
Sur les gènes en tant que séquence d'ADN, non. Sur l'épigénétique, peut-être.
Mais on en est même sûr, Raphaël Schex, non? Il y a une influence de ce qu'on respire, de
tout à fait, il y a eu des études, notamment sur les rongeurs, qui montrent que exposés à des polluants, ils vont avoir des profils épigénétiques modifiés sur une ou deux générations, peut-être.
Oui, en plus, ça se transmet, hein, c'est ça. Il y a même
sur cette étude sur les polluants, mais elle vient d'un laboratoire qui est très controversé, donc je ne préfère pas être mésante, mais effectivement, on sait que les facteurs nutritionnels, le stress aussi, le stress psychologique, effectivement les polluants, tout ça, ça influence notre épigénome.
Mais il n'y a pas d'adaptation, entre guillemets, parce que là, on parlait d'adaptation.
Non, parce que l'adaptation, en tout cas dans notre jargon, ça requiert une héritabilité. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve scientifique que c'est héritable, les marques épigénétiques, chez l'homme, je parle, sauf chez une femme enceinte. Et c'est là qu'il y a des confusions, parce que si vous changez l'épigénome d'une femme enceinte, au fond, vous êtes en train de changer l'épigénome de 3 générations. Parce que c'est elle, son fœtus et les gamètes de son fœtus. Donc, sauf Raphaël, c'était au courant des choses récentes, mais chez l'homme, il n'y a pas de preuves très convaincantes de l'héritabilité des changements de notre épigénome.
Effectivement, pour l'instant, on parle vraiment d'épigénétique intergénérationnelle, c'est-à-dire sur une ou deux générations, et plus c'est très controversé.
Allez, on se retrouve dans un instant autour du peuple des humains.
The bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you care. I think you know it. Start to pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over.
Good, c'était Arlo Parks.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Depuis qu'on est capable de séquencer des génomes entiers préservés dans ces fossiles, cela nous a même permis de reconstruire les migrations de différentes populations humaines au cours du temps et de voir aussi que lors de ces migrations se sont produites des métissages. Métissages avec des populations plus archaïques sur le continent eurasiatique. Et ce métissage se voit toujours dans le génome des êtres humains actuels. Tous les Eurasiatiques ont à peu près 2% de leur génome qui est originaire du néandertalien.
C'était la directrice de recherche Eva Maria Gegel de l'Institut Jacques Monod en janvier 2020 sur YouTube pour parler donc des migrations et de la grande histoire du peuple des humains avec Louise Quintana. Merci, c'est ce livre qui paraît chez Odile Jacob. Et Raphaël Chex, Camille, il y a pas mal de questions.
Oui, Nicolas nous écrit, il souligne l'opportunisme de Sapiens et il nous demande si avec un peu plus de gènes de Néandertal, on serait pas un petit peu moins destructeur de notre environnement, Louise Quintana. Merci.
Ça, je ne sais pas, mais par contre, ce qui est clair, c'est que où que Sapiens aille, les autres espèces disparaissent. Sapiens arrive en Europe, Néandertal disparaît. Sapiens arrive en Asie, Denisova disparaît. Sapiens arrive au sud-est asiatique, et l'homme de Flores en Indonésie, ou une autre espèce qui s'appelle Homo luzonensis en Philippines, disparaît. Donc on dirait que Sapiens, lui, est une espèce invasive, comme la lierre.
Ouais, et Raphaël Chex, comment on l'explique ça alors finalement
C'est une bonne question et je ne sais pas si on a vraiment la réponse, mais c'est.
Est-ce qu'il y a quelque chose dans son cerveau qui fait que il est capable de développer des comportements, des outils que les autres n'ont pas
Quels seraient les éléments de réponse et les hypothèses?
Je pense qu'il y a plein d'hypothèses, mais que moi j'aime beaucoup quand on parle de ça, paraphraser Jean-Jacques Hublin, le paléanthropologue, parce que ça me plaît son explication. Ne nous posons pas la question de pourquoi Néandertal est disparu, posons-nous la question et l'observation que où que se déplace, où qu'aille Sapiens, les autres espèces d'humains disparaissent.
Mais donc ça veut dire, si je suis votre raisonnement, que Sapiens sera donc le dernier à survivre?
Sauf s'il y en a quelqu'un d'autre qui est plus invasif que nous.
Mais pas une espèce humaine. On sera les derniers humains sur Terre, non?
Je sais pas.
Les derniers humains qui
sommes en train de couper la branche sur laquelle on est assis, oui.
Oui, mais on peut pas imaginer une autre espèce humaine que la nôtre. On est arrivé dans un goulot d'étranglement aujourd'hui, non? On pourrait voir émerger d'autres espèces humaines?
Je sais pas, dans quelques millions d'années.
Ah oui? Avec toujours Homo sapiens présent, à votre avis?
Je sais pas. Là, j'ai vraiment aucune idée.
Ouais. Mais c'est intéressant, en tout cas, d'imaginer ce scénario. Mais c'est un peu sévère, finalement, ce que vous dites, quand vous parlez d'espèces invasives à notre sujet.
Non, mais c'est
vous disiez espèces invasives, ouais.
Mais oui, on est une espèce quand même très... On est partout dans la planète.
Ouais, bon.
On est très cosmopolite. On n'est pas une espèce... super sympathique.
On ne fait pas que du bien.
Non, il suffit de regarder les journaux, c'est pas super sympathique.
Mais Raphaël Scheckz, finalement, ces déplacements, ces migrations dont on parle depuis le début de l'émission, c'est aussi intrinsèquement une nature de l'humanité, non? Le fait d'aller toujours découvrir de nouveaux territoires.
Oui, on peut le voir, on peut le voir comme ça, mais ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est par exemple quand Homo sapiens sort d'Afrique et va coloniser l'Australie, en fait, pour coloniser l'Australie, il se déplace chaque année pas beaucoup, en fait. C'est pas forcément des grandes conquêtes. C'est des petites migrations, génération après génération, qui finalement nous font parcourir des milliers de kilomètres.
Ouais.
Donc, il n'y a pas forcément besoin de chercher une raison à ça. C'est peut-être juste l'envie d'aller voir de l'autre côté de la colline. Et voilà. Et génération après génération, ça fait des grandes migrations.
Justement, Antoine demande sur franceinter.fr si à l'échelle individuelle, les hommes et les femmes, ont et avaient conscience de se déplacer, donc de changer d'écosystème, ou alors c'était même si c'est quelques kilomètres, quelque part, on ne s'en rendait pas compte.
Je pense qu'il y a eu, différents types de migrations. Il y a des petites migrations qui font des grandes distances, génération après génération. Puis il y a peut-être eu des moments où il y a eu vraiment une envie de se déplacer. Et de manière un peu paradoxale, le néolithique, donc le moment où l'homme se sédentarise, on s'aperçoit que c'est un moment où les gènes bougent beaucoup plus que quand Homo sapiens était encore chasseur-cueilleur.
Ah bon ?
Qui était pourtant nomade, donc il y a un truc bizarre.
C'est contre-intuitif presque, là, ouais.
Et en fait, c'est pareil, on voit ce résultat-là, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Comment on l'interprète? Est-ce qu'à partir du moment où on se met à domestiquer des plantes, des animaux, on a besoin de nouvelles terres pour les cultiver? Est-ce que c'est parce qu'on est en croissance démographique et on a besoin de nouvelles terres pour un peu étaler tout ce monde-là?
Est-ce que c'est ce que nous mangeons, précisément avec les sédentarisations? Est-ce que ça peut avoir une influence, précisément, sur ce brassement génétique?
Ce que nous mangeons.
Ben oui, le fait de se sédentariser, c'est-à-dire qu'on cultive d'autres plantes, on élève des animaux qu'on n'avait pas jusqu'alors, ça peut influencer aussi, ça les gêne ou pas?
Eh ben, alors, ce que nous mangeons, ce qu'on sait, c'est que, effectivement, à partir du moment où on change notre alimentation, on s'adapte génétiquement à cette nouvelle alimentation. Il y a le super beau, bel exemple de la lactase, qui est un gène qui nous permet de digérer le lait, qu'on retrouve dans les populations qui ont domestiqué des espèces laitières. On a le gène de l'amylase salivaire qui nous permet de digérer les céréales. On pense même d'ailleurs que l'alimentation a aussi joué un rôle dans nos couleurs de peau, puisque c'est pas simplement lié à l'ensoleillement. À partir du moment où on a un régime alimentaire qui est plus pauvre en vitamine D, plus riche en céréales, qui contiennent des phytates, qui limitent l'absorption du calcium, c'est peut-être seulement à ce moment-là que les peaux s'éclaircissent en Europe. On s'en est aperçu parce que les chasseurs-cueilleurs, il y a 7 à 8 000 ans en Europe, ont encore la peau foncée, alors qu'ils sont là depuis 30 000 ans, donc on s'attendait à ce qu'ils aient la peau claire. Mais en fait, ils avaient certainement la peau foncée, et on pense que c'est vraiment au moment où on change d'alimentation que il va y avoir une pression nouvelle pour une peau plus claire pour permettre la synthèse de la vitamine D. Mais par contre, oui, est-ce qu'il y a des alimentations qui nous font plus bouger? Ça, je ne sais pas répondre à cette question-là.
Luis Quintana, merci. Le peuplement du Pacifique, ça, c'est quelque chose d'assez fascinant lorsque l'on considère quand même que des populations ont dû réaliser de grandes traversées maritimes. Hein, et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand même en soi.
Oui, c'est le Pacifique, c'est une des régions au monde que je trouve plus intéressante pour deux raisons d'ailleurs. Une raison, c'est que ça a été peuplé en deux temps très différents. L'homme sort d'Afrique il y a 60 000 ans, et il arrive déjà en Océanie proche il y a 40 000 ans.
Ouais.
Après, rien ne se passe pendant 30 000 ans, et c'est il y a que 5 000 ans qu'un groupe d'hommes et femmes part de Taïwan, descend vers l'Océanie proche, qui était déjà peuplée, et peuple pour la première fois l'Océanie lointaine, c'est-à-dire à partir des îles Vanuatu jusqu'à la Polynésie.
Donc c'est là qu'il faut faire de grandes traversées alors.
Des grandes traversées sans savoir très bien où ils allaient.
Ouais.
Et en plus, la deuxième chose que je trouve très intéressante des populations du Pacifique, c'est que c'est les populations au monde qui présentent dans leur génome plus de proportions d'autres formes humaines aujourd'hui disparues. Parce qu'ils ont, comme nous tous hors d'Afrique, le 2,5% de Néandertal, plus tout ce qu'ils ont ramassé de Denisoviens.
Oui.
Donc il y a certaines populations aux îles Vanuatu ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui ont 6% de leur génome qui vient d'autres formes humaines. D'ailleurs, ce dimanche, si Covid me le permet, j'ai la chance de partir pour la troisième fois en Polynésie et j'espère que je pourrai y aller.
Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que ces peuples se sont aventurés vraiment à l'aveugle? Parce que vous dites que certains, quand même, avaient besoin de voir au loin qu'il y avait une terre pour oser justement prendre la mer. Mais certains ont été audacieux jusqu'à vraiment y aller sans aucun point de référence.
Au début de le peuplement du Pacifique, c'était pas à l'aveugle.
Ouais.
Le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Donc même si c'était loin, cette population-là, ils voyaient où ils allaient. Par contre, les contacts qu'il y a, de plus en plus d'évidence qu'il y a eu entre l'Amérique du Sud et les îles Marquises, par exemple, là, ils suivaient les vents. Ils ne savaient pas où ils allaient.
Incroyable.
Très audacieux et courageux. Julien nous écrit, pouvez-vous rappeler, s'il vous plaît, que les humains n'ont pas scientifiquement parlant de races différentes et que les frontières ne sont que pure conception politique et non génomique? Ça ferait du bien en ce moment. Et il ajoute, est-ce qu'on peut imaginer ce que sera l'humain dans plusieurs milliers d'années? Alors, Raphaël Scheix.
Sur les races, effectivement, on s'aperçoit que le gros de la diversité génétique, c'est à l'intérieur des populations. Entre deux humains pris au hasard, il y a 3 millions de différences, puisque notre génome fait 3 milliards de bases, et il y a une différence en moyenne toutes les 1000 bases. Si vous comparez deux humains proches sur la planète, ça va peut-être être un petit peu moins, 2 millions 9. Deux humains très loin, ça va peut-être être un petit peu plus, 3 millions 100. Mais en gros, on est dans un continuum génétique, et pas dans des populations qui seraient très différenciés génétiquement et qui permettrait de justifier la notion de race.
Et alors, et pour la population humaine dans quelques milliers d'années, si on peut imaginer?
Oui, je pense qu'évidemment, on ne s'est pas arrêté d'évoluer, on continue à évoluer. La sélection naturelle a changé un peu de cible, en tout cas dans les pays occidentaux, parce qu'on a introduit les vaccins, parce qu'on a introduit les antibiotiques, que grâce à ça, notre espérance de vie s'est allongée énormément. N'oubliez pas qu'à la fin du 19e, que 38% de la population arrivait à l'âge de 40 ans en Europe. Que 38%. Aujourd'hui, c'est 99% de la population arrive à l'âge de 40 ans. Mais dans les pays occidentaux, la sélection a changé un peu de cible. C'est plus tourné vers la reproduction que vers la mortalité. Avant, la sélection se faisait sur la mortalité. Maintenant, il y a de plus en plus de couples, on sait en Europe, qui ont du mal à se reproduire à cause du changement de mode de vie, de l'allongement de la vie. C'est-à-dire, en médecine, on a appris à allonger la vie, on n'a pas encore appris à allonger la qualité de cette vie.
Oui.
Et je pense que c'est les 20, 30, 40 prochaines années, ça va être ça.
Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres questions pour terminer cette Terre au carré sur le peuple des humains.
Bye.
roi des forêts, c'était Claire Diterzy sur Inter.
France Inter, la Terre au carré.
Le peuple des humains sur les traces génétiques des migrations, des métissages et des adaptations. C'est chez Odile Jacob, vous signez ce livre, Louise Quintana. Merci. Il y a plein d'exemples qui sont assez étonnants dans votre livre. Racontez-nous pourquoi justement le peuple Bajo, par exemple en Indonésie, est capable de tenir 13 minutes en apnée. Ça, c'est grâce véritablement à une mutation génétique?
Très simplement, parce que ce peuple passe 60% de son temps en apnée.
Ouais.
Ils sont des pêcheurs en apnée. Et ils ont une mutation génétique qui leur a permis d'avoir une rate plus grande.
Ouais.
Et ce qui permet de stocker beaucoup plus de globules rouges, donc d'oxygène. C'est un des cas plus extrêmes d'adaptation génétique à un environnement extrême, comme ça peut être aussi l'adaptation à vivre à quelques milliers de mètres en altitude. Et
avec
donc
moins d'oxygène.
Avec moins d'oxygène.
Ouais. Et tout ça, ça se traduit par le corps. Hein. C'est-à-dire c'est des modifications ensuite qui changent les organes.
Ce sont des mutations qui changent les organes et ou la physiologie de ces organes.
Une question de Marc qui revient sur ce que vous disiez tout à l'heure, Louise Quintana, merci. Ne peut-on pas dire que les autres espèces humaines ont été plutôt absorbées par Sapiens au lieu de dire qu'elles ont été détruites?
Ça, c'est en façon gentille, mais gentille dans le bon sens de gentil. C'est en façon positive de le voir. Il y a des gens même qui disent que Néandertal n'est pas disparu. On s'est métissé et Néandertal et avec nous.
Nous le portons en nous.
Nous
en
le
fait.
Portons en nous. Oh,
Jean-Charles ou Vanessa nous demande, Raphaël Schex, s'il existe, il nous parle des tests ADN, vous savez, qu'on peut faire soi-même, etc. Il demande ce que vous en pensez, si ça peut être fiable, vraiment fiable.
Oui, alors faut faire attention parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi sur le net et quand on vous promet d'être descendant de Toutankhamon, faut se méfier. Il y a des entreprises qui travaillent mieux que d'autres et même avec ces entreprises qui travaillent mieux que les autres, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des différences en fonction des résultats parce que ça dépend de leur base de données à laquelle ils vont comparer votre ADN. Donc parfois les gens sont surpris de pas avoir les mêmes résultats en essayant différents tests. Donc il y a forcément il y a une limite aussi.
Ouais, il y a des footballeurs en ce moment dans des publicités qui nous conseillent justement les tests ADN. Apparemment, c'est très populaire. Louise Quintana, merci. Vous donnez un exemple original sur les pratiques culturelles. Là encore, ça c'est votre rayon, Raphaël Schex, hein, la façon dont ça influence précisément la diversité culturelle. Avec l'apparition des tout premiers vêtements chez l'homme, c'est quoi cette histoire?
C'est là, effectivement, j'ai dédié un chapitre à ça. C'est que Marc Stonekin, de Max Planck à Leipzig, a eu cette intuition de vouloir dater les poux de vêtements.
Les poux.
Oui. Et en datant l'origine de l'expansion démographique de ces poux, il date le moment à partir duquel l'homme a commencé à s'habiller et ça tombe à environ 100 000 ans.
Donc c'est grâce à un parasite finalement qu'on arrive à dérouler ce fil de l'histoire.
Exactement. Ouais. Encore une fois, ça montre la puissance de la génomique et pas seulement la génomique humaine, en l'occurrence la génomique microbienne.
Ouais. Raphaël Schex, le système des castes en Inde, là encore, parce que c'est plein d'exemples hein, dans le livre, ça encore c'est un autre exemple d'influence culturelle justement sur la diversité génétique.
Tout à fait, parce que c'est un système où donc on a plusieurs castes qui sont très endogames, mais une femme d'une caste inférieure peut se marier avec un homme d'une caste supérieure, si bien qu'il y a plus de migration de femmes entre castes, ce qui se retrouve au niveau de la diversité mitochondriale.
Ouais. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, on pourra suivre ce grand périple, hein, cette épopée avec cet ouvrage, donc Le peuple des humains, ça paraît chez Odile Jacob, et vous en êtes l'auteur, Louise Quintana, merci à tous les deux.
Merci
à vous. Venu nous en parler.